Merci à vous qui nous rejoignez, c'est l'heure des informations avec Boris Allier. Bonjour Boris.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'extrême droite européenne se donne rendez-vous à Milan. Matteo Salvini et Marine Le Pen organisent un meeting à une semaine de l'élection des eurodéputés. Les souverainistes entendent bien surmonter leurs divergences.
5 mois sans salariés, impossible de payer l'eau ou l'électricité. La crise vénézuélienne touche également ses représentations diplomatiques, comme à Paris, vous l'entendrez.
Faciliter le retour des Rohingyas en Birmanie, voilà l'objectif de l'ONU et du Bangladesh qui délivre des pièces d'identité. Plus de 250 000 réfugiés en ont reçu à ce jour.
C'était il y a 6 mois, le début du mouvement des Gilets jaunes, 27e samedi de mobilisation aujourd'hui, l'occasion de faire le bilan économique du mouvement.
Et puis un détour par Cannes, en fin de journal, on connaîtra le palmarès du festival ce soir. Hier, c'est Pedro Almodovar qui a monté les marches. Dans la deuxième partie de votre matinale, Caroline.
Eh bien, Matteo Salvini, il n'est pas notre invité, mais nous allons parler de Matteo Salvini, de l'Italie, de l'Europe et de nous avec Giuliano D'Empoli, c'est l'ancien conseiller politique de Matteo Renzi, qui lui fut le chef du gouvernement de 2014 à 2016.
Matteo Salvini, justement, qui sera aux côtés de Marine Le Pen cet après-midi à Milan. Les deux leaders d'extrême droite veulent faire front commun en vue des élections européennes. À une semaine du scrutin, ils organisent donc un meeting avec 10 autres partis souverainistes. Celui du ministre italien de l'Intérieur devrait faire un bond extraordinaire, notamment dans certaines régions anciennement de gauche. C'est le cas des Abruzzes, dans le centre du pays, Mathilde Imberti.
Cet hiver, la Ligue a fini en tête aux élections régionales. Dans les Abruzzes, un fief de centre-gauche qui avait vu triompher ont fait les 5 étoiles en 2018. C'est à la faveur de cette percée léguiste que Piero Fioretti, fan de la première heure de Matteo Salvini, est entré au Conseil régional.
La Ligue a doublé ses voix par rapport aux élections de l'an dernier. On a fait 27,6% pour l'ensemble de la région et plus de 50% dans certaines communes. C'est incroyable, c'est l'effet Matteo Salvini, notre capitaine. Il se fait comprendre, il parle simplement, il dit des choses de bon sens.
L'Europe du bon sens, c'est d'ailleurs le slogan de Matteo Salvini pour le scrutin du 26 mai. Il a sillonné les régions, une par une, les Abruzzes, bien sûr. Roberto s'est laissé séduire. Électeur historique du Parti démocrate, il mettra un bulletin Ligue dans l'urne.
Non, à me piace perché quello che dice lo fa.
Moi, je l'aime bien. Au moins, ce qu'il dit, il le fait. Moi, je ne suis pas raciste, mais tous ces étrangers, c'est nous qui les entretenons. Il a bien fait de stopper des bateaux de migrants. C'était exagéré. Je n'ai jamais voté pour la Ligue jusqu'ici, mais maintenant que je ne fais plus confiance à la gauche.
Avec son tissu rural, sa classe ouvrière minée par la crise et ses petits entrepreneurs, les Abruzzes présentent le profil type du territoire où la Ligue prospère. 500 militants de la Ligue monteront de la région à Milan aujourd'hui pour le meeting de fin de campagne de Matteo Salvini. Sur l'ensemble du pays, la Ligue est donnée à quasiment 32% des intentions de vote dimanche prochain, 10 points devant les 5 étoiles et le Parti démocrate au coude à coude.
Le reportage de Mathilde Imberti. En Australie, en revanche, la gauche est donnée favorite pour les élections législatives. Le scrutin est ouvert et en cas de victoire, la gauche mettrait fin à 6 ans de gouvernement de droite. Nathanaël Charbonnier.
Si la gauche l'emporte ce week-end, cela ne sera pas à cause du charisme de son leader Bill Shorten, on dit l'homme triste et sans saveur. Non, cela pourra avant tout s'expliquer par les erreurs de la droite adverse. Erreur numéro 1, la majorité n'a cessé depuis 6 ans de se diviser entre d'un côté son aile réformatrice et de l'autre son aile plus conservatrice. Le clash le plus notable concerne notamment celui sur le mariage pour tous, qui a été finalement adopté en 2017. Erreur numéro 2, ne pas avoir compris que l'environnement serait l'un des enjeux de l'élection. La droite a continué de soutenir l'industrie du charbon dont le pays dispose en grande quantité, alors que l'Australie est confrontée au changement climatique avec une succession de sécheresses et d'inondations. Conséquence, la gauche a mené la course en tête dans les sondages durant toute la campagne. Elle a su parler énergie verte, mais aussi hausse des salaires ou encore réduction d'impôts pour les plus pauvres. Si les pronostics sont confirmés, c'est donc Bill Shorten qui deviendra le nouveau Premier ministre. Mais il aura fort à faire, car la campagne aura également été marquée par une montée du populisme et de l'extrême droite.
Et en tout, 17 millions d'Australiens sont appelés à élire leurs représentants.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro salue le début des discussions avec l'opposition. Elles ont commencé cette semaine à Oslo, en Norvège.
Et l'opposition incarnée par le président autoproclamé Juan Guaido, elle préfère relativiser et refuse de parler de négociations. Depuis 4 mois, le jeune leader tente des coups de force sans succès alors que le pays traverse une crise économique sans précédent. Les représentations diplomatiques sont elles aussi touchées, comme à Paris, Olivier Poujade.
Cinq mois sans toucher de salaire, sans pouvoir payer l'électricité, l'eau, le téléphone, l'ambassadeur vénézuélien en France, Hector Mujica, constate les dégâts de la crise qui touche son pays.
C'est une situation que vivent toutes nos missions diplomatiques dans le monde. L'argent n'arrive plus, on nous l'envoie, mais il n'arrive pas.
Le résultat, selon l'ambassadeur, des sanctions financières américaines contre le Venezuela, près de 5,5 milliards de dollars, seraient actuellement immobilisés dans une cinquantaine de banques, des comptes gelés pour entraver, dit-il, le travail diplomatique du gouvernement de Nicolas Maduro. C'est pourtant par cette voie qu'une solution sera trouvée, affirme Hector Mujica.
Et le moment viendra où les États-Unis seront obligés de dialoguer. Cela se fera entre Trump et Maduro, parce que tout le monde sait que Juan Guaido suit à la lettre les instructions de Washington, au profit des intérêts américains.
Après les nombreuses injonctions contre Nicolas Maduro, les États-Unis sont restés plutôt discrets sur la crise vénézuélienne cette semaine. Les initiatives sont venues d'Europe. Un groupe de contact s'est entretenu à Caracas avec le président et la Norvège a mené une médiation entre des représentants du pouvoir et des membres de l'opposition.
Olivier Poujade. Au Myanmar, l'ONU veut faciliter le retour des réfugiés Rohingyas. Depuis août 2017, au moins 700 000 personnes ont trouvé refuge au Bangladesh. Pour qu'elles puissent rentrer librement, les autorités et l'ONU leur fournissent un document d'identité. C'est ce qu'explique André Makeshich du Haut Commissariat aux réfugiés.
Jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 250 000 réfugiés Rohingyas de Myanmar. Maintenant, ils disposent désormais de cartes d'identité pour qu'ils puissent rentrer volontairement au Myanmar à l'avenir. Les réfugiés Rohingyas qui ont trouvé refuge au Bangladesh sont apatrides. Bien qu'ils aient vécu au Myanmar depuis des générations, les Rohingyas ont perdu leur citoyenneté en 1982. Le rôle de cet enregistrement, c'est pour protéger leurs droits pour l'avenir. Jusqu'à maintenant, pour la majorité des Rohingyas, ils n'ont eu aucun document qui prouve leur identité. En ce moment, chaque jour, plus de 4000 réfugiés sont enregistrés pour achever le processus d'ici la fin 2019, c'est-à-dire d'enregistrer toute la population des Rohingyas au Bangladesh, c'est-à-dire plus de 900 000 réfugiés qui se trouvent dans les camps surpeuplés à Cox's Bazar.
Est-ce que des réfugiés au Bangladesh ont tenté de repartir en Birmanie?
En ce moment, les conditions pour le retour du Rohingya au Myanmar ne sont pas là.
André Makeshich du Haut Commissariat aux réfugiés.
France Culture, il est 8h08, suite du journal avec la France et les Gilets jaunes qui entament leur 27e samedi de mobilisation.
Le mouvement né de la contestation contre la hausse des taxes sur le carburant a commencé il y a maintenant 6 mois. Les revendications se sont ensuite étendues au pouvoir d'achat, au salaire, à l'injustice fiscale. 6 mois plus tard, quel coût pour l'économie française? Quelle victoire pour les ménages? On fait le bilan avec vous, Bastien Roch.
Commençons par lister ce que ce mouvement a coûté. On pense bien sûr aux dégâts causés par des casseurs en marge des manifestations. À la fin du mois de mars, après 4 mois et demi de mobilisation, la Fédération française de l'assurance évaluait à 200 millions d'euros le coût de ces destructions. Même lorsqu'ils n'ont pas subi de dégradation, les commerces en centre-ville ont connu une large baisse de chiffre d'affaires, avec des rues vidées de leurs clients les samedis. La Fédération du commerce et de la distribution estimait à Noël que les commerçants accusaient déjà un manque à gagner de plus de 2 milliards d'euros. Et puis, il y a eu un impact sur le tourisme. Après une année 2018 en hausse, l'INSEE montre une baisse de 2,5% du nombre de touristes au premier trimestre 2019. Une baisse qui s'observe surtout à Paris et parmi les touristes étrangers. Ce vendredi, au salon Vivatech, Bruno Le Maire évaluait à 4 milliards d'euros au total le coût de la mobilisation des Gilets jaunes. C'est moins que ce qu'il avait estimé au départ, précise-t-il. Enfin, il y a eu le coût des mesures prises par le gouvernement pour répondre à la crise. 10 milliards d'euros pour celle de décembre, 17 milliards si on ajoute celle d'avril. Des mesures qui seront absorbées absorbée en grande partie par une hausse du déficit public. La conséquence, c'est que le pouvoir d'achat des ménages français devrait augmenter en 2019, plus 850 euros à l'année par ménage et en moyenne, estime l'OFCE. La moitié environ provient des mesures annoncées en décembre dernier pour sortir de la crise, que ce soit par le renoncement d'une partie de la CSG, la prime d'activité revalorisée ou les primes exceptionnelles versées par les entreprises.
Bastien Roch est avec nous en studio ce matin. Giuliano D'Ampoli, vous êtes l'invité de France Culture ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Ex-conseiller de l'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi, vous connaissez bien la France puisque vous vivez entre la France et l'Italie. Le gouvernement italien a apporté son soutien aux Gilets jaunes. Les liens sont-ils si évidents entre les manifestants français et les leaders italiens ?
Il y a évidemment, nous avons vécu, nos propres gilets jaunes sont aujourd'hui au gouvernement d'une certaine façon, parce que le mouvement 5 étoiles est né de façon très similaire il y a 10 ans, avec des rassemblements, d'énormes rassemblements dans les places d'Italie qui s'appelaient les V-Day, les Vaffanculo Day, donc les allez-vous faire voir, disons pour rester poli, jour. Et c'était justement un mouvement qui collectait des rages et des colères contre la classe dirigeante, même de nature très différente entre elles, mais qui convergeaient toutes vers ces grands mouvements que les médias traditionnels n'ont d'ailleurs pas vus. La conférence de presse de Grillo, une semaine avant le premier V-Day, qui aurait porté dans les places italiennes des centaines de milliers de personnes, il n'y avait aucun journaliste. Ils ont dû annuler la conférence de presse parce que personne ne croyait que seulement à travers Internet on pouvait mobiliser des foules énormes. La grande différence, évidemment, c'est que là, il y avait un leadership et une régie dès le début. Et donc, c'était très organisé, très centralisé d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas du mouvement des Gilets jaunes.
Merci Giuliano D'Ampoli. On vous retrouve après ce journal. À Paris, une partie de l'hôpital Hôtel Dieu cédée au promoteur immobilier Novaxia. L'assistance publique a conclu la transaction pour un montant de 144 millions d'euros via un bail de 80 ans. C'est un pays surarmé, plusieurs millions de revolvers, de fusils, de carabines en circulation, une arme dans quasiment chaque maison. Non, nous ne parlons pas des États-Unis, mais bien de la Suisse. Les habitants doivent dire aujourd'hui s'ils acceptent de durcir la loi sur le port d'armes. Certains y voient une atteinte à l'identité suisse. Jérémy Lange est allé sonner à la porte d'un stand de tir à Genève.
Bonjour.
Oui, bonjour, je suis journaliste à Radio France.
Ok, je vous laisse monter dans l'ascenseur.
Rentrer dans le plus grand centre de tir souterrain de Suisse est un peu déroutant. Une fois passé la sécurité, l'endroit est plutôt accueillant. Salon avec musique d'ambiance, distributeur de boissons fraîches. Ici, on vient pratiquer le tir comme on va au fitness. Michel Bonhomme, le directeur du Swiss Gun Center.
Ça peut être des anciens militaires, ça peut être des gens qui sont déjà habitués à utiliser des armes. Population aussi féminine, qui vient de plus en plus. Aujourd'hui, ça représente plus de 30% de notre clientèle. Comme vous le savez, c'est dans l'ADN du Suisse de pouvoir utiliser une arme.
Au pays de Guillaume Tell, chaque Suisse ou presque possède son fusil au cas où il devrait défendre le territoire. La loi soumise au vote veut donc mettre de l'ordre en interdisant certaines armes semi-automatiques, comme le demande l'Union européenne à Berne, car la Suisse fait partie de l'espace Schengen. Sauf que le message ne passe pas du tout chez les tireurs, à l'image de Pascal.
Moi je vais clairement voter non, parce que je perçois plutôt ça comme un problème avec l'Union européenne que comme un problème sur les armes en fait. En tout cas en Suisse, il n'y a pas de problème, donc je vois pas de raison d'en créer.
Le gouvernement a prévenu, refuser la loi ce serait sortir de Schengen, un argument maladroit concède le député libéral radical Benoît Jeunecamp, favorable à la régulation.
Ses opposants ont réussi finalement à faire en sorte que le débat s'assoie à la relation Suisse Union européenne. Si on prend le problème dans l'autre sens, cette régulation est raisonnable. Après, on met des tas d'exceptions, on est tout à fait suisse, hein. C'est une mesure de bon sens.
Seul le parti nationaliste de droite UDC a fait campagne contre la loi, sauf énorme surprise, elle devrait être largement acceptée.
Deux compétitions à suivre ce soir. Il y a l'Eurovision et puis il y a Cannes. On connaîtra le palmarès du festival et on retrouve comme chaque matin Antoine Guyot. Bonjour.
Bonjour Boris.
Vous avez assisté à deux projections hier et l'émotion était au rendez-vous.
Effectivement, Boris, à Cannes, comme dans la vie, il faudrait toujours se méfier de ses attentes. On espérait beaucoup de l'Autrichienne Jessica Hausner, formée à l'école Michael Haneke et autrice déjà de plusieurs films aussi beaux que radicaux. Pour sa première entrée en compétition avec Little Joe, elle s'essaye à la fable d'anticipation, une histoire de fleurs génétiquement manipulées pour créer du bonheur chez qui s'en occupe. La fable tourne au cauchemar, évidemment, quand les dites fleurs s'emparent de l'esprit des humains pour assurer leur survie, créant ainsi des créatures sans empathie, donc sans émotion. émotion ni âme, mais feignant presque parfaitement la normalité. On aura reconnu un grand motif du cinéma de science-fiction, vieux comme l'invasion des profanateurs de Sépulture de Don Siegel. Jessica Hausner n'en tire malheureusement rien de plus qu'un simple et trop long épisode de la série Black Mirror, tellement surexplicatif et auto-analysant dans ses dialogues qu'il ne laisse plus aucun espace au spectateur, pas d'émotion non plus. À l'inverse, on attendait plus grand chose de Pedro Almodovar qui depuis près de 10 ans traversait une inquiétante crise d'inspiration, et c'est précisément le sujet de Douleur et Gloire. Antonio Banderas en double confondant de celui qu'il avait révélé en 1982 dans Le Labyrinthe des Passions, même coupe de cheveux fou, même vêtements aux couleurs franches, évoluant dans l'appartement même de son modèle, incarne un cinéaste affligé de divers maux physiques mais surtout d'une grave impasse créatrice dont il se sortira en se remémorant un premier désir enfantin et en se confrontant à sa gloire passée des folles années de la Movida. Déclaration d'amour au cinéma, aux actrices d'hier et d'aujourd'hui et comme toujours à sa mère. C'est toute la filmographie de l'Espagnol qui est convoquée dans ce film le plus introspectif de son auteur, une œuvre magnifique et profondément émouvante pour le coup, qui pourrait bien valoir à Pedro Almodovar la Palme d'Or qu'il attend désespérément depuis qu'en 1999, il y a tout juste 20 ans, Tout sur ma mère avait bouleversé La Croisette.
Antoine Guyot à Cannes, le temps au programme aujourd'hui, des nuages et des averses.